9h20 minutes, il faut revenir sur les événements de la fin de semaine parce que ce qui se passe à Paris, c'est non seulement une situation française, mais c'est aussi le reflet d'un écœurement assez généralisé de beaucoup de payeurs de taxes à travers le monde. Ça se manifeste de différentes façons. On a vu la montée de la droite en Italie. On a vu également des révoltes de contribuables, des gens qui en ont assez. Et je vais commencer pour en parler avec Fabrice de Pierrebourg qui est avec nous. Peut-être faire le bilan, là, parce que c'était un week-end extrêmement violent, à Paris, dans d'autres grandes villes aussi.
Oui, Paul, on a parlé effectivement de guérilla urbaine. Tout le monde a vu les images sidérantes ce week-end à la télévision qui tournaient en boucle. Le bilan lourd, financier, on ne sait pas encore. La mairie de Paris dit que ça risque d'être colossal, le coût des dégradations dans les rues de Paris, entre autres. Mais il y a eu 378 personnes en garde à vue. Il y en a qui ont commencé à comparaître aujourd'hui. Puis j'ai vu passer des peines de prison prononcées sur le banc. Là, ça va minimalement à 3 mois de prison ferme. 150 blessés, au moins 200 sur tout le réseau français. Mais c'est vrai que là, on a vu quelque chose, des scènes de pillage, des scènes d'émeutes. Les policiers qui étaient littéralement presque débordé par l'ampleur de la tâche, qui était à court de munitions samedi soir, alors que les émeutes continuaient. Mais à la base, effectivement, comme vous le disiez avant, il y a un mécontentement populaire généralisé en France. C'est un mouvement qui a 80% d'appui dans la population française, le mouvement des Gilets jaunes. Mais 70% dénoncent les violences qui ont eu lieu ce week-end, principalement à Paris, effectivement, mais aussi dans d'autres villes de province, y compris dans des endroits calmes, d'ailleurs à la campagne. En Auvergne, on a vu une préfecture qui a été incendiée, à Lyon, à Marseille, dans la plupart des grandes villes, mais en même temps, il y a quand même un mouvement qui est aussi pacifiste, avec des blocages de routes qui se poursuivent, ou des semi-blocages, des ronds-points, des gens qui essayent de discuter. Mais c'est vraiment l'expression d'un ras-le-bol généralisé des Français face à l'argent qui manque tous les mois pour finir les fins de mois. Quoi.
Parfait. On va aller retrouver à Paris François Flamand, qui est un ami personnel qui œuvre au Québec dans le showbiz. Il est à Paris pour un séjour. D'abord, François, bonjour.
Bonjour, Paul. Bonjour, M. de Carbourg.
Alors, d'abord, peut-être nous parler un peu de ce que tu as vu, entre autres samedi, les préparatifs là, qu'on a pu observer autour notamment des Champs-Élysées.
Ben, écoute, c'est des préparatifs habituels là contre des émeutiers. Comme c'était la troisième manifestation, les restaurants ont été fermés, les terrasses ont été fermées, placardées de plywood. Là. Et évidemment, quand tu vois ça, c'est toujours une grande tristesse. Hein. Mais c'était dans le but de respecter le droit de manifester. Ici, le droit de manifester, c'est majeur. Et ils ont voulu donner, c'est comme ça que je l'entends, là. Ils ont voulu donner au peuple français le droit de manifester, leur laisser les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Là. Mais moi, j'avais un doute que c'était pour déborder de là, parce que comme le disait M. de Carrebourg, la France est plus que tannée, là. La France est vraiment enragée. J'étais ici au Bataclan, quand est arrivé le drame du Bataclan, je sentais le Paris affaibli, mais avec l'envie de se battre. Là, je les sens, au-delà de l'envie de se battre, moi, je les sens absolument enragés, mais complètement fous. Moi, les mots que j'entends là, depuis que je suis ici, c'est insurrection, sédition, révolution, guérilla, états généraux, état d'urgence. Je n'entends que ça. Les Français ont toujours été un peuple de manifestants et de révolutionnaires. Mais là, je sais pas. J'ai l'impression, moi qui aime l'histoire, de me retrouver en 1068, en 1789.
Mais François, ce ras-le-bol, là, on comprend que la taxe sur le carburant, c'est le déclencheur, mais si tu avais à traduire pour les auditeurs, là, pourquoi ils en ont assez, les Français?
Ben, ils en ont assez parce qu'ils sont pas tant parce qu'ils sont surtaxés, mais moi, ce que je comprends, c'est que leur pouvoir d'achat diminue. Ils sont, à tous les mois, ça diminue. Ils sont enragés contre la supposément, mais moi, je suis pas français, alors je t'assois pas ça de la même façon, mais le gouvernement Macron, de Macron lui-même, parce qu'il serait extrêmement arrogant. Alors, ils ont l'impression, en plus, il a coupé, enfin, son gouvernement a décidé d'enlever des taxes, aux riches, aux grandes compagnies, pour être capable de relancer l'économie un peu, mais sauf que ça prend du temps. Et là, eux, ils n'ont plus de patience, ils veulent plus attendre. Et la surtaxe de l'essence, c'est parce qu'elle est grave aussi, cette surtaxe-là. C'est pas n'importe quoi. La majorité des voitures en France sont au diesel. Et le diesel va être, chaque plein d'essence en moyenne, sur une voiture moyenne, va augmenter de 30 $ canadiens. On ne parle pas de n'importe quoi, là. On parle de 20 euros par plein d'essence. Et ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase avec l'arrogance de Macron. Et ces taxes qui ont été enlevées aux grandes compagnies. Et puis les familles qui en arrachent partout. Il y a un problème de mobilité aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. C'est pas les mêmes problèmes qu'à Montréal en termes de mobilité, mais c'est parce que les gens qui sont en province, les gens qui sont dans des petits villages, qui ont des commerces, qui doivent distribuer les choses eux-mêmes, etc., ils n'ont pas de solution proposée pour que ça leur coûte moins cher le transport dans les régions.
OK, mais justement,
ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils voyagent avec leur voiture.
Exact. Mais Fabrice, on sent l'espèce d'affrontement entre Paris, ou en fait l'establishment parisien, l'aristocratie parisienne, et les Français des régions, ça se manifeste, ça se traduit concrètement.
Ça a toujours été latent, hein? Effectivement, les régions versus Paris, puis il y avait aussi les régions versus Bruxelles, surtout dans les milieux agricoles, Bruxelles, donc le siège de la communauté européenne, qui pour eux incarne aussi le diable, c'est Bruxelles qui décide tout, qui signe des accords avec les États-Unis, le Canada, donc ils considèrent qu'à chaque fois, ils se font trahir. Mais je regardais ce matin dans Le Monde, il y avait un préfet. Les préfets, c'est vraiment les représentants de l'État de Paris dans chaque département en France. Il y a un préfet qui, sous le sceau de l'anonymat, il disait que le pouvoir est drapé. Ils n'ont pas vu la fragmentation de la société française. Le pouvoir est dans une bulle technocratique. Et dit, nous, on pourrait leur expliquer qu'est-ce qui se passe, mais ils ne demandent rien. Et quand ils viennent sur le terrain, séparés de leur arrogance parisienne. Puis là, c'est vraiment un haut fonctionnaire de l'État français qui dit ça. Donc effectivement, les manifestations à Paris, c'est symbolique, mais pour eux, c'est tout ce qu'ils détestent. Puis vivre à Paris, là, pour un Français, maintenant, c'est devenu quasiment impossible. Il faut un énorme pouvoir d'achat pour pouvoir vivre à Paris. Le logement est excessivement cher. Effectivement, là-bas, ils n'ont pas de problème de déplacement. Il y a un transport en commun qui est bien développé. Mais comme le disait François, en province, puis moi, je le sais, je vois, on a coupé les lignes de chemin de fer secondaires. Donc, il n'y a pas d'offre de transport en commun. Ils ont besoin le diesel, ça fait tourner les chauffeurs routiers, ça fait tourner l'économie agricole, les gens pour aller à leur travail. Là, ils se disent, ben, OK, c'est bien beau l'écologie, mais nous, au quotidien, on n'en peut plus. Pendant ce temps-là, Paris se gave. Ils sont dans le luxe. Monsieur Macron regarde ça de sa tour d'ivoire de l'Élysée. Puis on en arrive à ce qui s'est passé ce week-end, puis qui va probablement se passer le week-end prochain.
François, parle-nous un peu de la couverture des médias. C'est couvert comment, ces événements-là, ces manifestations?
Encore une fois, c'est une impression, mais ce que je ressens, c'est que les médias ne sont pas véritablement du côté des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, moi, en tout cas, je sais plus c'est qui. Il y a tellement de factions. Les Gilets jaunes ne sont pas représentés, encore moins les casseurs, les émeutiers, mais ils sont en train de s'organiser beaucoup plus vite, selon moi, que les Gilets jaunes. Et je sens des débats davantage politiques que la compréhension du drame social. C'est ce que je ressens, là. Mais, tu sais, il y a trois journaux que je regardais, Le Figaro, c'était extrême droite, ou c'est droite, si tu veux, machin. Mais tout le monde, je m'égare, là, parce que je suis pas journaliste, je veux pas dire des conneries, mais je sens que les médias ont couvert ça contre, il y a une opinion contre, évidemment, et c'est normal contre les Gilets jaunes parce que il y a eu trop de violence. En très peu de temps, trop de violence. Moi, j'étais avant-hier, je suis allé à Reims et j'ai pas pu entrer dans la ville. Il y avait des camions en accordéon qui nous empêchaient d'y aller. Et tous les postes de péage étaient occupés par des petits groupes, hein, des groupuscules, mais de Gilets jaunes. Et c'est mal perçu parce qu'ils sont désorganisés. Alors, c'est mal perçu. Les journalistes savent plus à qui poser des questions et avoir des réponses non plus. Macron est pas sorti. C'est l'opposition qui vient parler à la télé. Hier, vous l'avez vu à France 2, c'est le plus jeune des représentants de la santé du gouvernement, le plus jeune député qui est venu parler à France 2, alors que c'est un problème grave là, qui se passe actuellement. Je pense que les médias sont perdus comme nous tous. En tout cas, moi, je suis perdu parce que je suis pas capable d'identifier personne. Et c'est grave ce qui s'est dit hier. Les médias sont pris là-dedans aussi. Je sais pas si t'es pris dans une situation où t'animes un show et qu'il y a une personne anonyme, vraiment, là, sur le panel, qui fait appel à la guerre civile. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais moi, je l'ai entendu hier soir. J'avais les jambes sciées.
Ouais, puis on le voit sur les réseaux sociaux. On le voit sur les groupes Facebook de Gilets jaunes. Il y en a je sais pas combien. Il y a des propos hyper violents, quoi.
Ben là, t'avais le gars qui...
ce gars-là, il voulait investir. Il a dit, fait appel à tout le monde d'investir les institutions. C'est de la sédition. C'est de rentrer dans les gouvernements, rentrer à l'Assemblée nationale, rentrer dans les bureaux de l'État, puis de mettre la marde. Désolé, là, mais c'est grave.
Non, mais t'as même celui qui, en point de presse, et là, je voyais tous les micros de toutes les chaînes qui faisaient des déclarations. J'ai rencontré des Gilets jaunes, nous nous sommes parlé, et ce que j'entends, c'est Macron démission, Macron destitution.
Oui.
Et qu'il a dit, en plus, il va finir peut-être comme John F. Kennedy. Ouais. Ou, hey, là, écoute bien, là, tu fais appel à l'assassinat politique. Et les gens sont là, puis on ne sait pas qui il est exactement. C'est un député, là, mais il représente quoi? Il représente qui? C'est un peu obscur, là.
On ne sait pas. Et c'est très, très... C'est des images fortes pour nous, parce que c'est Paris, c'est tout petit. Puis là où s'est passée toute cette violence hier, c'est aussi tout petit. M. de Clairvaux pourrait te le dire. Tu sais, c'est si petit. Ben, toi aussi, bon. Mais la violence est tellement énorme. Où je m'en allais avec mon discours? Là. Ah oui, c'est pour te dire que ce matin... Ben oui, mais c'est pour te dire que ce matin, les images sont fortes, parce que ce matin, c'était les ambulanciers, peut-être les SAMU. Alors, eux, il y en a beaucoup qui sont des propriétaires, des petits entrepreneurs privés qui fournissent les ambulances, un peu comme au Québec. Et puis eux, ben, la taxe qui va entrer le 1er janvier, là, 30$ de plus le plein d'essence, ils n'en peuvent plus. Alors, ce matin, eux, c'était une manifestation... mes places de...
La
Concorde, voilà, merci. Et c'est là même où Marie-Antoinette, on lui a coupé la tête. Tu sais, ces images-là sont fortes.
Merci beaucoup, François Flamand, qui est donc en direct de Paris. Il est en séjour là-bas. Et il faut juste rappeler en terminant qu'il y a une autre manif qui est prévue pour samedi.
Et peut-être même quatre, d'ailleurs. Il y a plein d'appels sur Facebook, oui. Avec une qui s'appelle Insurrection, effectivement. Une tous à l'Élysée, mais la page a été supprimée. Il y en a une autre à la Bastille. On va voir, ça s'annonce pas très réjouissant.
OK, mais je vais revenir avec une question précise pour la tribune téléphonique. Mais moi, j'ai envie de vous parler de ça ce matin-là. Est-ce qu'il y a un écœurement? Je vais faire la pause, là, parce qu'il faut la faire, là. Mais je vais revenir après avec ça. Mais mettez ça dans votre ordinateur personnel. Quand vous regardez, par exemple, les taxes, quand vous regardez ce que vous devez payer en impôts, taxes municipales, taxes scolaires, là, ça arrive aujourd'hui où le gouvernement promet de retourner de l'argent aux citoyens, puis que vous regardez cette grogne. Puis je pense à des agriculteurs qui peuvent... qui se sentent isolés, puis des gens qui sont à l'extérieur de Montréal, qui se sentent aussi peut-être délaissés par une certaine aristocratie ou un certain establishment. On va s'arrêter là-dessus, OK? Faut faire la pause, ça prend les revenus. Et je reviens après avec la question, le numéro de téléphone, puis là, pensez à ça. En avez-vous plein votre casque? Et est-ce que les fins de mois, même en travaillant, sont difficiles?